Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous. Isolement, fermeture des écoles, des universités, vie étudiante à l'arrêt. C'est certain, être jeune en temps de crise sanitaire, ce n'est pas une sinécure. Une vie, une jeunesse bouleversée au point d'avoir engendré chez certains une véritable détresse psychologique mais également sociale. Oui, il y a les séquelles physiques du Covid-19 et il y a toutes les autres. Les dépressions ont augmenté selon les médecins. La précarité également selon les associations. Il y a aussi des critiques, par ailleurs entendues sur la politique vaccinale après celle sur le confinement. Les jeunes doivent-ils être une variable pour protéger leurs aînés ? Avec le recul relatif dont nous disposons aujourd'hui, à l'approche du bac d'ailleurs, quelles sont les conséquences de cette crise sanitaire sur les jeunes Français, les étudiants et les autres, les jeunes travailleurs ou sans emploi? Sont-ils finalement les oubliés de la lutte contre le Covid-19? C'est notre débat du jour.
RFI.
Et pour en discuter ce soir avec nous en studio, Chantal Stenner, pédiatre, chef du pôle médecine de l'adolescent à la Fondation Santé des étudiants de France, également professeur associé à l'université Simone Veil de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Chantal Stenner.
Bonsoir.
Avec nous également en studio, Sophie de Tarlé, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Bonsoir Sophie de Tarlé.
Bonsoir.
Et puis enfin au téléphone, Joanie Caillouette-Ramblière, sociologue. Vous êtes chargée de recherche à l'Institut National d'Études Démographiques et vous avez récemment co-dirigé l'ouvrage « L'explosion des inégalités, classe, genre et génération face à la crise sanitaire ». C'est aux éditions de l'Aube. Bonsoir Joanie Caillouette-Ramblière.
Bonsoir.
Merci tout d'abord à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation, évidemment. Et pour démarrer, si vous le voulez bien, les conséquences de cette épidémie sur les jeunes Français. Chantal Stenner, en tant que médecin, en tant que pédiatre, quel bilan vous en tirez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus marquant, selon vous?
Ce qui est plus marquant, c'est que les adolescents et les jeunes adultes vont mal, tous, autant qu'ils sont. En tout cas, la plupart vont très mal.
Ça mérite d'être clair.
On le voit dans l'augmentation des consultations, en particulier aux urgences. Et on a alerté très tôt pour dire à quel point les consultations aux urgences explosaient. Et effectivement, pas avec les maladies habituelles de la pédiatrie, mais plutôt avec des tentatives de suicide, même chez le très jeune, des 12 ans, 10-12 ans, ce qui n'est pas habituel.
Oui, c'est pas habituel, oui.
Mais aussi une augmentation, bien sûr, plus âgée, une augmentation de la dépression, des troubles des conduites alimentaires, plein de choses, je dirais, qu'on voit habituellement aux urgences ou en consultation, mais là, qui ont explosé. Une explosion de l'obésité aussi, une explosion des déséquilibres des maladies chroniques. Vraiment des adolescents et des jeunes adultes qui vont pas bien. Et puis, il y a tous ceux qui ne consultent pas, qu'on ne voit pas ou qu'on voit extrêmement tardivement parce que soit ils sortent plus de chez eux, soit ils se disent que c'est pas à eux d'aller consulter, soit ils ont encore peur d'aller dans les hôpitaux ou autres puisque c'est là où le Covid ou la Covid circule, etc. Donc, une explosion de difficultés médicales au sens large, qu'elles soient physiques ou psychiques, mais les deux sont très, très reliées avec une anxiété majeure. Et si je me contaminer, surtout si je contaminais mes parents, mes grands-parents, etc.
Il y a cette crainte, elle est réelle, cette crainte générationnelle de ne pas contaminer ses parents,
tout
ses grands-parents.
Tout à fait. Elle est réelle. Et puis, il y a une anxiété au sein de la famille qui, forcément, traverse les générations. Et cette anxiété, donc, se transmet aux jeunes, qu'ils soient encore adolescents ou même jeunes adultes, étudiants ou autres.
Joanie Caillouette-Ramblière, sur le plan social, quelles conséquences vous tirez de cette crise sur les jeunes Français?
Alors, ce qu'il faut savoir pour pouvoir comprendre l'ampleur que peut avoir la crise sur les jeunes générations aujourd'hui, c'est qu'elle arrive à un moment où les jeunes constituaient déjà une génération qui voit son entrée dans la vie adulte plus compliquée que celle des générations précédentes. Plus compliquée sur deux plans au moins. Sur le plan de l'insertion professionnelle, l'enquête génération du CEREC qui est sortie dans ces dernières analyses sont sorties en janvier 2020 et d'ores et déjà elle indiquait que pour cette génération d'entrants sur le marché du travail, les choses étaient plus compliquées que pour les générations précédentes. Elles étaient plus compliquées en termes de salaire, en termes de progression salariale, en termes de capacité à obtenir un CDI, à obtenir un poste stable. et puis les trajectoires des jeunes qui se dirige petit à petit vers plus de précarité, plus de chômage augmenté. Bien entendu, 2 mois plus tard arrive le début de cette pandémie qui va avoir des effets d'autant plus forts que
ça a accentué ce que l'étude avait déjà mis en lumière. C'est ça?
Bien entendu, ça a accentué. En fait, la crise va avoir des effets sur l'emploi de toutes les générations, mais ces effets vont être accentués pour les groupes sociaux pour lesquels qui étaient déjà les plus vulnérables, ceux qui avaient tendance à cumuler des contrats de travail précaires. Donc les jeunes, ceux qui étaient les derniers arrivés dans leur entreprise, donc les jeunes, ceux qui restaient cantonnés à des postes d'employés ou d'ouvriers, plus souvent les jeunes que les générations d'avant. Donc au niveau de l'insertion professionnelle, alors là je parle pas des étudiants, je parle de ceux qui s'insèrent professionnellement, mais je parle aussi en creux des étudiants, puisque ça on
retrouve lorsqu'on
discute avec des étudiants. Voilà, en fait c'est comme ça qu'ils voient aussi leur avenir s'assombrir et ils ont pas tort à quelque part, puisque en tout cas ce qu'ils observent aujourd'hui du marché du travail, c'est pas très très réjouissant. Après, il y a aussi tout ce qui concerne le logement, puisque les jeunes, c'est aussi le moment d'accès à un logement autonome. Et sur ce plan, c'est vrai que c'était une génération qui déjà avait plus de difficultés à obtenir un logement, à pouvoir le payer, puisqu'ils arrivent sur un marché du logement qui est très tendu en termes de prix de l'immobilier
et puis de coût
du loyer. Exactement. Et les logements sociaux sont rarement accessibles aux jeunes. Donc ils se retrouvent souvent à payer des loyers dans le secteur privé qui sont très chers. Et ce qu'on a pu observer très tôt dans le premier confinement, c'est un jeune sur trois a quitté son logement pour aller rejoindre de façon temporaire ou permanente, le plus souvent de la famille. Une partie d'entre eux ont retrouvé après un logement autonome, mais pas tous. Et donc là, on voit une sorte de retour en arrière qui s'observe très rarement dans l'accès à l'autonomie, où des jeunes prenaient un peu leur envol et reviennent. C'est un phénomène dont on a déjà parlé, les tanguis, etc. Mmh. Mais là, ça prend une ampleur qui est sans commune mesure, puisque
face à cette crise, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Finalement, si on vous comprend bien, par ricochet, cette crise sanitaire provoque ou aggrave les inégalités face au logement pour les plus jeunes. C'est ce qu'on comprend.
Effectivement, dans le premier confinement, c'était 1 jeune sur 10 déclaré avoir peur de perdre son logement. Et ils étaient un quart à dire penser ne pas pouvoir payer leur loyer dans l'année qui suivait. Donc, bien entendu, les conséquences de ça, puisque l'embellie n'a pas non plus eu lieu dans l'année qui a suivi, c'est qu'une grande partie d'entre eux ont dû quitter leur logement et souvent être accueillis par des proches, le plus souvent les parents, parfois des amis, parfois d'autres types de solutions. Donc, au niveau du logement, ça a beaucoup aggravé également la situation des jeunes. Mmh. Et puis, il y a un autre point qui fait écho à ce qui a été dit juste avant, c'est au niveau de l'isolement. Ce qu'on ne dit pas forcément en temps ordinaire, mais ce qui est vrai également en temps ordinaire, c'est que les jeunes, c'est la classe d'âge qui se sent le plus isolée. En temps ordinaire et en temps de crise, ça prend des proportions qui sont beaucoup plus importantes.
Même à l'époque des réseaux sociaux, de l'hyperconnectivité, ils se sentent en situation d'isolement.
Ils se sentent en situation d'isolement parce que l'hyperconnexion ne concerne pas l'ensemble des jeunes et puis les réseaux sociaux ne remplacent pas des relations sociales. Mmh. En fait, les jeunes sont très divers, on en parlera peut-être un petit peu après, mais la jeunesse, on pourrait parler de jeunesse au pluriel.
Des jeunes, oui.
Bien entendu. Ce qui est frappant, c'est l'isolement qui les prend en temps ordinaire et encore plus en temps de crise et qui trouve notamment son origine dans le fait que ça fait partie des personnes qui vont le plus rarement vivre en couple. Mmh. Et le couple est quelque chose dont on sait que ça protège de l'isolement.
C'est un cocon.
Bien entendu, un cocon ou en tout cas c'est une relation un peu privilégiée qui va protéger de l'isolement. Et les jeunes, c'est la classe d'âge donc qui a le moins ça. Et puis aussi très très nombreux jeunes changent de lieu de vie pour leurs études, pour accéder à un travail. Ouais. Et donc, ce sont les moins ancrés dans un territoire. Ce sont ceux qui connaissent le moins leurs voisins, qui ont le moins des membres de leur famille à proximité. Et donc, isolés chez eux, son conjoint, son voisin qu'on connaît, qui prennent de nos nouvelles, dont on peut prendre des nouvelles, bien entendu, tout ça a des conséquences.
C'est un isolement qui rejoint peut-être aussi l'aspect détresse psychologique dont on parlait tout à l'heure. Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant, vous suivez régulièrement l'actualité étudiante.
Tous les jours.
Voilà, c'est votre métier. Vous entendez ces jeunes, surtout les étudiants, en ce qui vous concerne.
Oui, collège, lycée, étudiants.
Ouais. On a parlé là notamment de la crainte en l'avenir pour l'insertion dans le marché de l'emploi. C'est ce qui vous frappe le plus quand on entend ces jeunes aujourd'hui face à cette crise sanitaire. Quelles conséquences pour eux ?
Il y a plusieurs aspects selon l'âge et selon le milieu social et selon évidemment l'origine. Mais bien sûr, l'insertion, c'est un point extrêmement important puisque finalement, l'insertion, ça commence très jeune. Mmh. Ça commence pas à 25 ans, l'insertion. C'est dès les premiers stages, à 17-18 ans, dès les premiers jobs d'été, les boulots de vacances, les départs... Départ à l'étranger, les stages à l'étranger. Il y a des jeunes qui n'ont pas pu valider leur diplôme en BTS, donc des jeunes de 18-19 ans qui sont embêtés parce qu'ils n'ont pas pu avoir de stage et donc pas pu valider leur diplôme. On est dans une radio, j'imagine que vous êtes aussi sollicité comme nous au Figaro par des jeunes qui veulent un stage même de 15 jours pour passer des concours d'école de journalisme. Eh bien, c'est un peu dans tous les métiers pareil. Pour poursuivre les études, c'est-à-dire on est en licence, on veut candidater à un master, eh bien, on est obligé d'avoir une petite expérience, d'avoir au moins un mois de stage dans le domaine qui nous intéresse pour postuler dans une école hôtelière, pour postuler dans une école...
Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment leur
manquer. Là, qu'est-ce que vous avez fait qui montre votre motivation ? Eh bien, en fait, j'ai rien fait parce que j'ai pas pu travailler dans un hôtel, un restaurant, etc. Tout était fermé. Donc là, ça complique. On n'attend même pas la fin des études, en fait, pour que ce soit compliqué. C'est, en fait, dès le départ, c'est compliqué. Pour des jeunes qui doivent montrer leur motivation et en fait ils n'ont pas pu le montrer tout simplement. Et puis moi ce qui m'a plus marqué, disons pendant cette période qui était très compliquée, c'est de voir les jeunes décrocher au niveau scolaire quoi.
Le décrochage.
C'est ça, ouais. Mmh. C'est-à-dire.
Les cours à distance n'étaient pas suffisants.
Ouais. Et ça a été un grand enseignement, finalement, pour tout le monde, de voir que, finalement, l'enseignement à distance, dont on a tant vanté les mérites depuis des années, depuis la création même d'Internet, hein. Moi, je me souviens très bien quand Internet est arrivé, on se disait, waouh, on n'aurait plus besoin d'aller à l'école, on suivra les cours à distance. Mmh. Eh bien, là, c'était un cas réel. L'enseignement à distance, finalement, à plein temps. Et on a bien vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, l'enseignement à distance. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a une dynamique de groupe qui se crée. On a besoin d'être avec les autres. On est des animaux sociaux. Mmh. On a besoin d'être avec les autres pour tout simplement se motiver, pour travailler. Et moi-même, les jeunes qui travaillaient avec moi me disaient s'il te plaît, Sophie, est-ce que je peux venir au journal parce que je n'arrive pas à travailler seule chez moi. Mmh. On voyait les ados, eh bien, se lever tard, recevoir des mails, avoir du travail à faire, et puis petit à petit, les jeunes de terminale pendant le premier confinement, ça a été dur. Hein, on les voyait se lever à midi, et en fait, ils n'ont pas travaillé, quoi. Ils ont eu tous le bac, et puis finalement, c'est horrible, c'est qu'il leur a manqué ce moment un petit peu initiatique où on a tous le souvenir de l'année terminale, on s'est mis à travailler, on a fait des fiches, etc. On a fait les annales, on a travaillé. Et puis eux, finalement, ils n'ont pas eu cette expérience. Ils sont rentrés tous, ils ont tous eu le bac, et ils ont tous eu l'examen. Ils sont rentrés dans l'enseignement supérieur sans finalement avoir vraiment travaillé. Et ils sont arrivés là, et là aussi, on leur a demandé finalement toujours l'enseignement à distance. Là, les étudiants d'université, par exemple, ça a été un cauchemar, quoi. Ils n'ont pas eu cours à 18 ans, vous imaginez ? 18 ans. Même s'il y a quelques cours en Zoom, c'est difficile d'aller à la fac et de se motiver. Mais alors, en plus, quand il y a cours à distance et quand il n'y a pas vraiment cours, en fait, on vous donne du travail et puis il faut le faire. Mmh. Et pour des collégiens, vous imaginez, à 12-13 ans, quand vous avez juste des mails et il faut faire le travail, on vous dit, faites cette rédaction pour demain. Et voilà, en fait, vous n'avez pas de cours, vous avez juste du travail à faire chez vous. C'est épouvantable. Et là, c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est essentiel d'être en groupe, d'être avec d'autres.
On en revient à l'aspect isolement, finalement. L'isolement participe au décrochage.
Et l'enseignement à distance, ça a montré ses limites. Mais c'est un enseignement incroyable, parce que le nombre de gens qui croyaient en les vertus de l'enseignement à distance, ben non, en fait, ça ne marche pas, quoi.
C'est une bonne leçon.
C'est une bonne leçon, et voilà, on y, finalement, ça ne marche pas. Et c'est bien de le savoir, en fait. Mmh. On a besoin d'être avec d'autres, on a besoin de travailler, vous voyez, on est ensemble. Vous voyez, quand on m'a proposé de venir en studio, ben j'ai dit non, je préfère venir en studio plutôt qu'être à la, au téléphone, parce que ça me fait plaisir de vous voir, en fait. Mmh. Et ben, c'est exactement pareil.
C'est toujours plus agréable, effectivement.
C'est plus agréable d'être en classe, c'est plus agréable de voir son professeur en vrai et d'être avec d'autres, et c'est plus agréable d'être même en entreprise avec d'autres.
Il est 19h45 ici à Paris.
RFI.
Le débat du jour. Les jeunes Français sont-ils les oubliés de la lutte anti-Covid? On vient de faire un premier tour de table pour tirer le bilan, les conséquences qu'on pouvait dresser de cette crise sanitaire sur les jeunes. Il y a eu des choses de fait, quand même. La réponse du gouvernement a été mise sur la table. Sur le plan de la santé mentale, par exemple, si on parle des étudiants, le gouvernement a promis un accès facilité aux psychologues. Cette réponse, est-ce qu'elle a été à la hauteur de l'enjeu, selon vous, et des conséquences que cette crise a eues sur nos jeunes? Chantal Steiner, pédiatre.
Oui, alors, il y a eu des réponses, effectivement. Il y en a eu d'autres, en particulier, par exemple, avec le développement des troubles des conduites alimentaires. Il y a eu un effort de fait pour pouvoir développer des activités. Mais pour développer une activité, il faut des professionnels formés. On ne claque pas dans les doigts et on n'ouvre pas une unité comme ça. Sauf que des professionnels formés, on en aura peut-être dans 5-6 ans pour les infirmières, dans 10 ou 12 ans ou 15 ans pour des médecins. Donc il y a des efforts qui ont été faits, mais quelquefois qui ne permettaient pas d'augmenter les prises en charge.
Parce que trop tard, finalement.
Parce que trop tard. Et donc il y a un certain nombre de choses, en particulier sur la santé des adolescents. Ça fait quand même plusieurs années qu'on alerte sur la santé des adolescents, en expliquant bien à quel point l'adolescent, effectivement, il est important pour lui-même. Il est important parce qu'en fait, il a des dizaines d'années de vie, c'est un futur adulte, puis c'est un futur parent, et sa santé est extrêmement importante, que ce soit sa santé mentale ou physique, est extrêmement importante pour les générations futures. Donc, il faut investir dans cette santé de l'adolescent. Ça fait très longtemps qu'on alerte les pouvoirs publics, et puis là, on a montré que dès qu'il y avait une pandémie, c'est pas rien, mais c'est quand même une pandémie, on s'apercevait qu'effectivement, on n'avait pas du tout les ressources. Et quand on voit, par exemple, que la FSEF, c'est donc une institution de référence pour la santé de l'adolescent et du jeune adulte, il n'y en a pas deux ou trois en France. Il y en a une. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment développer
ça. Donner plus de moyens sur le temps long.
Sur le temps long, parce que ce sont toutes les générations futures. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on améliore la santé d'un adolescent, c'est plusieurs générations qu'on améliore. Mmh. Et je pense que c'est vraiment, ça fait partie des messages absolument indispensables à passer. Puis je voulais quand même rebondir sur ce que vous disiez sur la scolarité. Ça marche pas l'enseignement à distance, ou ça marche juste pour un tout petit peu. Mais je sais pas si vous avez essayé de suivre des conférences toute la journée. De 9h du matin à 17h
derrière un écran.
Honnêtement, moi, j'en suis pas capable.
Bon courage, effectivement.
C'est ça, moi, j'en suis pas capable. Donc, pourquoi les adolescents ou même les étudiants, ils seraient capables de le faire? Enfin, je veux dire, c'est impossible. Donc, les professeurs ont essayé de réinventer un petit peu, mais on peut pas faire le même programme dans le même temps, avec en plus toutes les inégalités sociales dont on a déjà commencé à parler un petit peu, quand on a un ordinateur pour 4 enfants, ça marche pas.
Et sur le plan psychologique, donc l'isolement dont nous parlait Sophie de Tarlet, qui participe au décrochage scolaire, c'est un fait, ça. Cet isolement peut participer du coup à la coupure du monde scolaire décroche.
Oui, l'isolement a vraiment été important, même, je dirais, chez les adolescents qui vivent chez leurs parents, puisqu'ils étaient isolés de leur père. Et en fait, comment se développe un enfant tout petit, c'est plutôt les parents, mais dès qu'il grandit, c'est la communauté, ce sont les pères qui permettent le développement. Et là, il était coupé, parce que les réseaux sociaux, on ne dit pas la même chose sur les réseaux sociaux, et quand on est dans une cour d'école, etc., on n'échange pas du tout les mêmes choses. On a loupé quelque chose là, en fermant les écoles, en les empêchant de sortir, on a loupé quelque chose dans leur développement. Ils se sont sentis effectivement extrêmement isolés, ils ont eu tendance décaler leurs horaires, à passer plus de temps sur les écrans, mais pas pour suivre les cours, pour faire d'autres choses, à manger et arrêter de se développer, de se confronter à leur père. Et donc, bien sûr, tout ça a majoré le décrochage scolaire, et c'est quelque chose qui va être très, très difficile à reprendre. À la FSEF, on travaille donc en soins-études, et on a beaucoup de jeunes qui ont décroché scolairement et qu'on essaye de... On voit bien à quel point c'est difficile de se remettre remettre dans cette ambiance, de se remettre dans les études, de se remettre à aller en cours.
Mais
toute
qu'est-ce
la
qu'il
journée,
faut alors
etc.
pour les remettre justement, pour renouer ce fil avec l'école? Il faut simplement un retour en classe, c'est ça?
Il faut un retour en classe, éviter les. Alors toi, t'es du matin, toi, t'es d'après-midi, mais toi, par contre, c'est un jour, mais pas l'autre, etc. Enfin, essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent pour tout le monde, je dirais. Et puis, oui, reprendre une ouverture des écoles de façon classique, parce que c'est indispensable. Là, déjà, on va avoir des conséquences importantes sur le long terme, mais si ça perdure, là, je ne sais pas comment on va retrouver les...
Et donc, selon vous, la réponse du gouvernement, qui était de moduler les classes en fonction du nombre de cas, de les fermer par-ci, par-là, c'était peut-être pas une réponse la plus adaptée, finalement, à la situation?
Alors, je n'ai pas tous les chiffres, hein, voilà, mais de mon côté, enfin, la Société française de pédiatrie a très vite dit, il faut rouvrir les classes, il faut les rouvrir le plus possible, etc. Si vraiment vous pouvez pas faire autrement, fermez les lycées, mais ouvrez les petites classes, mais si possible, laissez aussi les lycées ouverts, parce que tous les pédiatres voyaient bien les conséquences sur les jeunes. Donc effectivement, je pense que, puis on a bien vu, hein, que la transmission, elle se faisait pas forcément en classe, mais plutôt à la maison, et on rapportait le virus dans la classe, que c'était pas mal les adultes aussi, etc. Et donc, peut-être que cette idée de fermeture des écoles n'était pas la plus appropriée. Alors, on ne connaissait pas tout au début.
Oui.
Voilà. Mais enfin, maintenant, on sait, et on sait à quel point ces jeunes qui ont peu de conséquences directes du virus, par contre, ont d'énormes conséquences des fermetures de classe, de l'isolement, etc. Oui. Et donc, si on veut protéger les jeunes de la même façon qu'on protège d'autres, soit classe d'âge, soit personnes en situation où le virus pourrait être vraiment très grave, eh ben, on doit protéger les jeunes. Et pour protéger les jeunes, il faut les autoriser à sortir, à aller en classe, à se rencontrer, à faire la fête.
Une vie sociale.
Puis, une vie sociale.
Je dirais, il y a le jeune stressé et déprimé qui ne va pas à l'école et qui reste chez lui. Mais je dirais que les jeunes aussi sont touchés par ça lorsqu'ils commencent leur vie professionnelle. Je pense par exemple à des jeunes qui commencent leur vie professionnelle ou qui ont fait l'intégralité de leur stage chez eux, dans leur chambre, ou chez leurs parents, ou dans une chambre d'étudiants, ou même qui ont trouvé leur premier emploi. J'en vois qui n'ont jamais vu leur patron, en fait.
Ils ne connaissent pas la vie d'entreprise, finalement.
Ils ne connaissent pas la vie d'entreprise. Ils ont été recrutés pour un premier emploi à 21, 22 ans, sur Zoom. Et ensuite, ils commencent leur vie professionnelle de chez eux. Il y a même des entreprises qui ont déjà commencé à dire, ben non, en fait, ce sera toujours comme ça. Parce qu'en fait, on ne va pas ouvrir des locaux. On veut imaginer.
Est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été mis
donc
en place
si ça
quand
continue,
même par les universités pour contrecarrer cet effet-là? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui aurait été mis en place, ou alors on lâche simplement les jeunes comme ça dans le grand bain, faites vos stages de chez vous?
Ben non, il y a que faire, en fait, c'est difficile, hein. Ils font leur stage, ils font comme ils peuvent, mais quand vous avez un jeune qui commence son stage et puis qui commence une dépression, et là j'en ai vu beaucoup, même à titre personnel, enfin, je vois bien que quand les jeunes sont chez eux et qu'ils ne viennent pas dans l'entreprise pour un stage ou pour un premier emploi, ça peut être vite compliqué, c'est-à-dire vite compliqué au niveau de la santé mentale, quoi. Donc j'espère que c'est pas quelque chose qui va perdurer, qu'il n'y aura pas de rebond, on le prie tous, mais disons que j'espère que c'est pas des choses qui vont être prises comme habitude par l'entreprise. Oui. Parce que ce serait vraiment catastrophique, je trouve. On est fait pour vivre ensemble, et on est fait pour être socialisé et être seul chez soi. On n'est pas fait pour ça, quoi. Oui. Donc s'il y a des entreprises qui veulent perdurer cette situation, je trouve que c'est une très très mauvaise solution pour des jeunes qui sont en plus souvent pas en couple, comme vous disiez, qui sont souvent célibataires, c'est normal à 20 ans. Et qui ne peuvent pas bénéficier de ce cocon qui peut les protéger.
Ouais. Joanie Caillouette-Remblier, on vient de voir un nouvel aspect donc de l'isolement des jeunes. Plutôt côté étudiant, vous nous parliez tout à l'heure des jeunes travailleurs, justement, ceux qui font leur premier pas dans la vie active, et même des sans-emploi, ceux qui cherchent un emploi. On imagine que pour eux, l'isolement est encore plus grand.
Oui, et bien entendu, l'isolement, mais aussi les conséquences en général de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on a eu tendance, à la fois dans les réponses politiques qui ont été apportées à cette crise, mais aussi dans le débat public, à amalgamer jeunes et étudiants.
Ouais,
Or, C'est pas pour dire que les étudiants n'ont pas souffert de la crise, loin de là. Mais c'est vrai que autant ils étaient complètement ignorés du débat public au début, ça a été long avant de le prendre en compte, autant il y a pu avoir une série de réponses et puis de lumière qui a été apportée sur leur situation. Mais il y en a qui sont restés oubliés de la crise encore jusqu'à aujourd'hui, à la fois dans le débat public et dans les réponses politiques qui sont abordées. Ce sont ceux qui ne sont pas aux études ou plus aux études et qui n'ont pas non plus un emploi, qui n'en avaient pas avant la crise, qui en cherchaient parfois pas, hein, puisque il faut quand même savoir que la jeunesse, c'est un moment où on se cherche, où il y a une partie des gens qui ont des projets qui sont autres que professionnels. Parfois, certains pouvaient avoir des projets de voyage, des projets culturels, des projets artistiques, des projets sportifs qui devaient avoir lieu l'année dernière, qui s'interrompent. C'est vrai que ces jeunes, alors là, je parle surtout parmi eux, des moins diplômés, puisque dans cette catégorie de jeunes qui ne sont ni en emploi ni aux études, on est plutôt sur des jeunes qui viennent de milieux plus défavorisés, qui sont moins diplômés. Et en fait, sur tous les indicateurs, c'est eux qui souffrent le plus de l'isolement, des conséquences financières et des conséquences en termes de logement et de conditions de logement ou de retour vers un hébergement chez des proches dont je parlais tout à l'heure.
Et quel accompagnement alors pour ces jeunes en situation de sans-emploi ? On sait que pour les étudiants, aussi minimes soient-ils, les cours à distance, il y avait un lien avec l'université quand même. Les sans-emploi, le seul lien qui leur reste, c'est quoi ? C'est Pôle emploi ?
Alors, Pôle emploi, pour certains d'entre eux, mais même pas pour tous. Alors, il y a une question d'accompagnement, il y a une question aussi de mode de subsistance qui se pose pour eux, puisqu'il y a ceux qui peuvent se reporter, et c'est le cas le plus fréquent, sur des solidarités familiales, et puis il y a ceux qui n'ont rien. C'est vrai que sur ce point, les pouvoirs publics ne sont pas forcément ni actifs ni proactifs.
Certains disent que les politiques à destination de la jeunesse n'ont pas été forcément mises en œuvre suffisamment dans cette crise. Vous êtes d'accord avec ça ? Une réponse à minima du gouvernement ? Pour ces jeunes-là ?
Une réponse à minima, il faut quand même savoir que c'est la seule tranche d'âge qui est à la fois majeure, qui peut travailler, qui peut voter et qui n'a pas accès au RSA ou à un revenu minimum qui lui permettrait de poursuivre son insertion, de subvenir à ses besoins sur cette tranche d'âge très particulière où, pour certains, il y avait des projets qui pouvaient leur permettre d'être autonomes, mais tout ça a eu des conséquences qui viennent là, pour le coup, et c'est vraiment très net, accroître les inégalités sociales chez les jeunes, puisqu'il y a ceux qui peuvent se reposer sur les solidarités privées, étudiants ou travailleurs ou sans emploi, ils peuvent avoir un logement qui appartient aux parents ou qui est payé par les parents, avoir la certitude d'avoir suffisamment d'argent pour manger jusqu'à la fin du mois. Ça semble tout basique, mais il y a ceux qui n'ont pas ça. Et comment est-ce qu'on fait pour se loger, se nourrir et se projeter sans ces solidarités familiales si l'État n'apporte aucune réponse par ailleurs ?
Sophie Le Tarlet, je crois que vous vouliez réagir. Il nous reste un petit peu moins d'une minute.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord pour certains aspects de ce que vous dites. Mais il y a un aspect quand même qui a été très intéressant de la part de l'État, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage, puisqu'il y a eu des aides très importantes pour aider les entreprises à embaucher des apprentis. Et je crois qu'il y a eu un record d'embauches, avec 500 000 embauches d'apprentis en 2020, un chiffre qui n'avait jamais été atteint. Donc cette aide de l'État a été pour le coup extrêmement bénéfique pour les jeunes, ce qui permet l'apprentissage quand même, je le rappelle, de ne pas payer ses frais de scolarité et de toucher un salaire, ce qui est quand même extraordinaire. Donc là pour le coup, il y a certains aspects sans doute évidemment qui ont été à critiquer, mais là pour l'apprentissage, ça a été une très bonne mesure.
Un point positif.
Oui, tout à fait.
Voilà, 19h59 ici à Paris. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce débat. Merci à Chantal Stenner, pédiatre, chef de pôle médecine de l'adolescent à la Fondation Santé des étudiants de France. Merci à Sophie de Tarlet également, bien sûr, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Et puis à Joannie Cahuillette-Ramblière, sociologue chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Restez avec nous, bien entendu, sur la radio du Monde. Dans un petit peu plus de 30 secondes, le retour de l'info. Excellente soirée.